Bienvenue sur Mediapart. La révolution féministe, c'est le nom tout simple que nous avons choisi pour une nouvelle collection d'émissions consacrées au genre, au combat féministe, aux controverses qui y sont liées. Et pour l'émission inaugurale de cette collection, nous avons voulu planter le décor historique, en quelque sorte, du moment contemporain, du moment que nous vivons, en profitant de la publication d'une somme qui s'annonce déjà de référence. Ne nous libérez pas, on s'en charge. Ça, c'est le slogan. Et le sous-titre dit tout. C'est une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, en France en particulier. Deux co-autrices de l'ouvrage sont nos invités, Bibia Pavard et Florence Rochefort. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes toutes les deux historiennes. Bibia Pavard à Paris 2, Florence Rochefort au CNRS. Votre ouvrage n'a pas pu prendre en compte ce qu'on a vécu depuis le mois de mars, ce fameux confinement où il y avait lourdes questions féministes aussi qui se jouaient dans cette période. Mais vous dédiez une section de chapitre au phénomène MeToo, qui est le plus contemporain des événements qu'on trouve dans le livre. Vous parlez évidemment des prises de parole, des manifestations, des revendications, des révélations, des réactions qu'il y a eu au cours de cette séquence. Visiblement, quelque chose est en train de se passer là depuis quelques années. On trouve plusieurs termes dans le livre. On trouve événement, on trouve surgissement, on trouve renouveau. Mais celui que vous avez choisi, c'est moment, le moment MeToo. C'est ça qui semble avoir votre préférence. Et du coup, j'aimerais vous entendre un peu sur le choix de ce terme, parce que quand on est historienne, qu'on travaille sur la matière chaude du présent, c'est toujours difficile, alors que d'habitude, vous avez le bénéfice du recul. Mais comment on choisit de caractériser ce moment-là visiblement très fort?
Alors c'est vrai que c'est une question passionnante pour les historiennes et les historiens de savoir comment nommer ce qu'on est en train de vivre, comment nommer une époque. Hein, c'est quelque chose qui traverse toute l'écriture de l'histoire avec le fait de trouver des chrononymes, des noms qui correspondent à une époque. Et c'est vrai que pour le phénomène MeToo, on a voulu appeler toutes les trois, Michel Zancarini-Fournel, Florence Rochefort et moi, cette idée de moment, parce que dans l'idée de moment, il y a l'idée qu'on est à la fois au croisement entre le passé, le présent, et on a aussi une image du futur dans cet instant. Et donc, ce qui nous a paru intéressant avec MeToo, c'est à la fois que ça s'inscrivait dans une histoire longue de dénonciation des violences faites aux femmes, des violences aujourd'hui on dit sexistes et sexuelles, depuis les années 1970, renouvelées dans les années 90, on a essayé de montrer ces continuités. Et en même temps, il y avait l'événement lui-même, évidemment lié à l'affaire Weinstein, et puis à la circulation de ce hashtag mondialisé. Et puis, il y a eu aussi quelque chose qui nous a vraiment marqué, c'est l'idée que ça, c'était une mobilisation en ligne, bien sûr, mais hors ligne, qui s'est matérialisée par des organisations, des associations, des nouveaux groupes qui se sont créés, une venue au mouvement féministe de toute une jeunesse, de plein de nouvelles générations, qui portait en fait un nouveau regard sur ce qu'est être féministe aujourd'hui, en 2020.
Alors, je poursuis avec vous, parce que vous avez travaillé sur les années 68. Dans le livre, vous avez choisi le même mot, moment, pour le moment 68. Est-ce que du coup vous voyez des parallèles avec ce qui s'est joué à l'époque, puisque vous reproduisez une affiche d'une revue qui s'appelle Partisan où on voit Libération année zéro, donc on a l'impression d'un surgissement du nouveau, mais comme vous l'expliquez dans le livre, il y a aussi évidemment déjà plusieurs générations qui se mêlent dans les combats qui se jouent à ce moment-là, et par rapport au futur, ça joue le rôle, dites-vous, d'accélérateur pour des individus et pour des organisations.
Effectivement, c'est Michel Zancarini-Fournel qui parle de moment 68. On parle aussi parfois des années 68 pour dépasser finalement le moment mai-juin, l'événement du mai-juin 68, et essayer de comprendre comment ça s'ancre dans la France, mais aussi les contestations mondialisées des années 60, comment ça surgit d'un coup et comment effectivement il y a une ombre portée qui s'étale bien sur toutes les années 70. Et évidemment, nous, on a essayé de caractériser les mobilisations féministes à l'intérieur de ce moment 68, mais on retrouve cette même idée de quelque chose qui s'ancre dans un temps plus long, qui est libéré d'un coup dans un événement qui prend une ampleur remarquable, mais qui ensuite voit des développements pendant plusieurs années, effectivement.
Et il me semble que ce que vous soulignez, pour le coup, dans l'idée de rupture, je ne sais pas, en tout cas, Ouais, la part de nouveauté ou d'inédit dans la période actuelle, c'est à la fois des renouvellements de répertoire d'action, de mode de mobilisation, mais vous insistez aussi beaucoup sur la communication. Et alors là, pour le coup, l'usage du online, hein, l'usage des réseaux de communication, des réseaux sociaux, et tous les changements qu'il y a aussi dans le champ médiatique. Je crois que c'est important, il me semble, dans ce que vous mettez en avant.
Alors c'est vrai que les questions de communication sont vraiment passionnantes à l'heure actuelle parce que déjà, effectivement, il y a des formes de circulation qui sont assez inédites et qui sont amplifiées effectivement par l'Internet et les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vrai que c'est assez marquant. On voit aussi que ça transforme les manières d'agir des mouvements féministes qui aujourd'hui agissent dans la rue, mais aussi en ligne. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'exemple des colleuses, c'est quelque chose, c'est l'idée de se réapproprier la rue,
un espace. C'est le collage qu'on voit dans les rues, hein. Avec les,
Avec les dénonciations des féminicides et aussi avec le développement aujourd'hui de toute une série de slogans féministes qui s'affichent dans les rues des grandes villes de France actuellement. Donc à la fois, c'est vraiment se réapproprier la rue, cet espace traditionnel des mobilisations collectives, mais en même temps, ces collages, ils sont photographiés, ils circulent sur les réseaux sociaux, ils peuvent devenir des objets, des t-shirts, imaginons, des tasses, etc. Donc il y a des formes de commodification. Donc il y a des formes de circulation assez inédites avec Internet. Et puis il y a des nouvelles compétences qui sont demandées aux féministes aujourd'hui qui, effectivement, maîtrisent cette communication moderne en ligne. Et puis il y a vraiment aussi cette foi, ce qu'on a remarqué dans les mouvements actuels, cette foi que la communication peut changer les mentalités, peut transformer les sociétés et donc vient compléter une vision à plus traditionnel des mouvements sociaux qui étaient sur la confrontation, les luttes et les révolutions. Il y a aussi l'idée que il faut arriver à changer les esprits aussi par là. Donc ça c'est important. Et puis l'aspect médiatique est quand même aussi central puisque on a aujourd'hui aussi des nouvelles générations de féministes, femmes et hommes, qui ont intégré les rédactions et qui font le suivi de ces sujets, qui leur donnent une importance, qui leur donnent un écho et qui donc jouent un rôle important dans ce moment que nous sommes en train de vivre.
Alors pour jouer l'aspect à la fois ce qu'on vit en ce moment et le temps long, peut-être je vous pose la question à vous, Florence Rochefort. Dans les chapitres précédents en MeToo, il y a toute une réflexion sur l'institutionnalisation du mouvement féministe dans les années 80. Est-ce que vous lisez ce qu'on vit en ce moment, cette résurgence, ce renouveau, comme aussi une réponse à une forme d'épuisement de cette institutionnalisation qui a eu cours dans les décennies précédentes?
Alors, il y a toujours eu, disons, depuis les années 1980, cette double ou même triple ou quadruple énergie avec aussi l'institutionnalisation. C'est-à-dire qu'elle ne remplace pas des mouvements sociaux plus traditionnels avec des groupes, des journaux, des manifestations, l'occupation des rues. Mais ça a été quelque chose qui s'est ajouté, disons, au répertoire d'action des féministes. Et je ne sais pas si on peut interpréter la résurgence ou cette révolution féministe d'aujourd'hui comme une réaction à cette institutionnalisation. En fait, je ne le crois pas et je crois que justement, il y a plutôt même une radicalisation aussi dans l'institutionnalisation à cause de ce mouvement, de cette jeunesse dans la rue.
Vous dites radicalisation, c'est dans quel sens?
Par exemple, je ne sais pas, enfin là, ce n'était pas dans le livre parce que ça sortait, mais ce budget genré de la ville de Marseille, par exemple. Là, on est bien dans du féminisme institutionnel dans le sens que c'est une institution municipale qui va agir en tant qu'agent d'une instance,
une
puissance publique. Si on entend institutionnalisation dans ce sens-là, on voit qu'il y a aussi des agents ou des agentes d'un féminisme, disons, plus offensif à l'intérieur de ces institutions.
D'accord. Un dernier mot justement pour terminer sur l'aspect le plus contemporain, parce que quand on fait l'histoire des féminismes, vous employez le pluriel évidemment, souvent il y a une métaphore qui est utilisée qui est celle des vagues. Aujourd'hui certains disent qu'on n'est même plus dans la troisième, on est dans la quatrième vague. Alors est-ce que l'une d'entre vous peut très rapidement, très pédagogiquement rappeler le sens de cette métaphore des vagues et pourquoi surtout vous ne la reprenez pas, parce que c'est un choix que vous dites dans le livre, vous dites bon, nous cette histoire des vagues, cette métaphore, ça nous va pas trop, on juge pas vraiment ça pertinent.
Alors du coup, c'est vrai que cette métaphore des vagues, elle a elle-même une histoire. C'est ça qui est intéressant. Elle est née d'abord des mobilisations féministes états-uniennes, avec cette volonté de s'inscrire dans la continuité des mobilisations féministes depuis le 19e siècle, mais en même temps marquer un renouveau, effectivement, une rupture. Donc depuis ces années 70, traditionnellement, on aurait une première vague 19e siècle jusqu'aux années 1930, qui serait autour des questions des droits, même si c'est beaucoup plus complexe, on le montre dans le livre, justement.
Droit politique, dessus le droit de vote, par
voilà,
exemple.
Voilà, exactement. Et puis une sorte de reflux, ce qu'on peut appeler un creux de la vague, un renouveau dans les années 70, deuxième vague. Et puis ensuite, il y a cette question de l'émergence d'une troisième vague qui, elle aussi, est nommée d'abord par les États-Uniennes dans les années 1990 et qui, en France, voilà, se diffuse un peu plus tardivement, notamment avec les questions de commémoration de la deuxième vague. Bon, c'est assez complexe comme phénomène. Mais ce que l'on voit imbriqué, c'est à la fois un des termes qui ont été forgés par les mouvements sociaux eux-mêmes, qui ont voulu se nommer, se distinguer, et aujourd'hui, une difficulté justement à compter ces vagues. Ouais. Et donc, nous, ce qui nous est apparu, c'est que ce terme-là, il est un peu trompeur, parce que d'une part, il a tendance à donner l'impression qu'on a quelque chose de très unifié. Et d'autre part, ça a tendance aussi à effacer les moments de les effets de continuité qui existent aussi. Et donc c'est pour ça que voilà, en y réfléchissant, en discutant entre nous, et aussi parce qu'on a voulu commencer avant ce dernier tiers du 19e siècle, remonter jusqu'à 1789, qu'on a voilà laissé de côté pour le moment cette métaphore pour essayer voilà de caractériser avec plus de complexité, de finesse ces développements historiques qui sont finalement très complexes.
D'accord. Alors il y a un autre choix que vous avez fait qui est de prendre au sérieux dans l'histoire que vous faites l'idée d'intersectionnalité, c'est-à-dire, pour aller très vite, le croisement des dominations sociales, au fond, comment le sexisme est reconfiguré par le racisme et inversement, comment le racisme peut être configuré par le sexisme, et on peut multiplier des exemples selon le type de domination dont on parle. C'est pas juste une proclamation de début d'ouvrage, hein, ça informe les choix de thématiques, de figures que vous faites au fil du livre. Florence Rochefort, je vous laisse expliquer à la fois pourquoi ce choix est affirmé aussi fort dès le début. Et au fond, enfin pour prolonger la question, est-ce que ça veut dire que pour vous trois, l'histoire des féminismes jusqu'à présent souffrait de biais excessifs, et je ne sais pas si on peut le dire aussi crûment que le biais d'une histoire trop blanche, en partie.
En tout cas, c'était une véritable interpellation à laquelle on adhérait. C'est-à-dire qu'on était persuadé que c'était absolument fondamental de réfléchir de façon plus intersectionnelle et sans forcément, nous, avoir une option théorique absolument certaine. C'est pas notre option. C'était plutôt changer la boîte à outils et repartir, refaire un récit où on serait plus attentive à cette jonction entre, par exemple, anti-esclavagisme et inégalité des sexes. Et en fait, et puis, ensuite, on a choisi le prolétariat, reprendre un peu cette histoire politique des féminismes, jusqu'à aujourd'hui, l'apparition de nouvelles minorités qui s'emparent du féminisme et qui s'affirment intersectionnelles. Donc, c'était une interpellation pour relire l'histoire en étant beaucoup plus attentive à des minorités, à réintroduire des femmes noires et cette problématique de l'anti-esclavagisme, parce que tout d'un coup, elle apparaissait essentielle et répondre aussi à une demande d'histoire.
Et notamment avec une place accordée aux outre-mer français, qui est souvent négligée, en fait, dans une histoire qui est souvent très métropolitaine.
Voilà. Et là, rendons hommage aux historiens et aux historiennes, et notamment Clara Palmistre de la Martinique, et ce qui nous ont permis de réintroduire ces éléments. Parce que pourquoi on ne l'a pas fait auparavant? Peut-être parce qu'on était moins conscients de cette importance, mais aussi parce qu'on n'avait pas le matériau. C'est-à-dire que c'est aussi des nouveaux matériaux sur cette histoire, notamment des Antilles, ou des féminismes en Algérie coloniale, ou du colonialisme des féministes majoritaires en métropole. C'est tous ces travaux qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un nouveau récit.
Je poursuis sur cette question, vous avez commencé à l'aborder. En fait, dès le début de l'ouvrage, ça commence assez fort d'ailleurs, parce que vous dites, voilà, dès la Révolution, autour de la Révolution, des Lumières et de la Révolution française de 89, au fond, il y a la cause des Noirs et la cause des femmes sont souvent défendus en parallèle sur les mêmes bases intellectuelles. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Il me semble que ce n'est pas forcément très connu ou mis en avant.
Oui, surtout, alors à la fois, quand on y retourne, ça paraît évident, parce que voilà, il y a Condorcet, qui est un grand abolitionniste, donc qui veut abolir l'esclavage. Hein. Olympe de Gouges, qui est aussi une grande figure redécouverte récemment, qui est aussi une pionnière de ce mouvement abolitionniste. Et puis, si on voulait élargir, il y a tout aussi les féminismes états-uniens et britanniques. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose de consubstantiel entre la prise de conscience de l'esclavage, le refus de l'esclavage, et puis on découle de cette métaphore et de cette prise de conscience politique la volonté d'abolir l'inégalité des sexes.
Sur la base de la commune humanité.
La commune humanité, le refus des hiérarchies, le refus de la soumission et de la subalternité, on dirait aujourd'hui, de l'un par rapport à l'autre.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu un fil renoué, parce que pour avoir travaillé un peu sur à l'occasion d'une série d'été dans Mediapart, on réfléchissait au lien entre féminisme et marxisme. Je relisais des travaux de Colette Guillaumin qui parlait de sexage pour décrire la domination des femmes. Et ça fait penser à servage et à esclavage. C'est voulu comme tel pour désigner une appropriation directe des corps. Donc elle s'inscrit un peu dans cette approche-là, finalement.
Voilà, d'ailleurs, les féministes utilisaient beaucoup cette métaphore de l'esclave, sans toujours être vraiment engagées dans un débat ou dans un combat abolitionniste, mais la métaphore était très puissante pour essayer de se faire comprendre aussi. Et puis, mais je crois que c'était une vraie lecture politique de la domination. Le problème, c'est que la domination masculine, elle était encore plus à l'époque considérée comme absolument normale, naturelle, décrétée d'emblée. Donc il fallait montrer par des mots clés, des mots forts, briser ce mur de silence, ce déni total du fait qu'il y ait une domination. Et déjà penser en termes politiques les rapports hommes-femmes, c'est une révolution conceptuelle et qu'on trouve dès 1789.
Alors si je fais un bond dans le temps, mais pour illustrer ces façons de penser ensemble les dominations, il y a des figures de deux sœurs, en l'occurrence les sœurs Nardal, dont vous dites dans l'ouvrage qu'à travers elles, donc on est dans les années 1930, se dessinent les connexions entre femmes de la bourgeoisie noire, travailleurs noirs anti-impérialistes et penseurs de la négritude. Alors est-ce que, pour ceux qui ne les connaissent pas, pour donner un des avant-goûts de l'ouvrage, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces sœurs Nardal?
Alors c'est vrai que ces sœurs Nardal, elles ont été particulièrement étudiées dans ce livre par Michel Zancarini-Fournel, qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire des Antilles et à cette question de l'articulation entre la pensée de la négritude et la place des femmes dans cette pensée dans les années 30. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on pense négritude, on pense Léopold Sédar Senghor, on pense Aimé Césaire, et évidemment on oublie ces deux sœurs qui pourtant avaient un salon littéraire et politique qui a été crucial dans les années 30, justement parce que elle faisait circuler à la fois les idées d'un point de vue transatlantique, donc elle rencontrait, elle lisait des Américains, des Américaines. Elles étaient en fait une plaque tournante dans ce salon littéraire pour faire se rencontrer, pour réfléchir à cette identité noire colonisée. Et à cette culture noire qui devait émerger aussi pour justement contester ces formes de colonisation. Et donc à la fois par la presse, par les écrits, on voit et s'exprimer ces voix spécifiques de femmes dans cette négritude qui ont été complètement occultées. Donc elles sont redécouvertes aujourd'hui, notamment par les mouvements afroféministes qui se cherchent des modèles dans l'histoire, et c'est important effectivement de les retrouver, de les mettre en avant comme des pionnières qui ont participé à cette histoire de la pensée de la négritude. Oui.
Alors, je rebondis sur ce que vous dites parce que il y a plusieurs illustrations dans le livre, et il y en a deux qui semblent se répondre un peu à travers le temps. Il y en a une qui date des années 70. C'est une manifestation pour l'avortement libre et gratuit en 79. On voit une pancarte femme noire, et dans le chapitre consacré aux années 70, on apprend qu'il y avait des coordinations de femmes noires qui s'étaient montées en Outre-mer, mais aussi en métropole. Et puis plus loin dans le temps, en 2015, il y a une marche de la dignité où on voit une autre pancarte qui s'appelle « Stop à la misogynoire ». Et là, c'est un collectif qui s'appelle Moissy, qui est un collectif actuel, et qui, lui, ne se dit plus... il parle pas de femme noire, il parle d'afroféminisme. Et du coup, j'aimerais vous entendre sur à la fois la part de continuité qu'il y a dans ces combats-là. On voit bien ce que vous nous avez décrit sur l'intersectionnalité se rejouer à travers le temps. Et en même temps, c'est intéressant parce que les termes changent. Afroféminisme, on le disait pas dans les années 70, on le dit maintenant. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est joué ?
En tout cas, ce qui est important dans ce renouvellement du récit, c'est d'avoir mis en avant la coordination de ces femmes noires ou ce mouvement de femmes noires, parce que souvent, on a l'impression que justement, ce mouvement féministe des années 70, elle n'existait pas. Alors là, il fallait vraiment réintroduire cette dimension, même si c'est ultra minoritaire, mais il y a des tas d'autres groupuscules qui sont ultra minoritaires et qui sont néanmoins très importants. Donc c'est pas toujours le nombre qui fait la force. Et elles avaient toute leur place dans un mouvement. Et dans une des affiches qu'on montre de 1978, on voit qu'elles ont apporté toute une série de revendications qui sont liées aussi à la condition des femmes, notamment en Afrique, ou dans ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, et notamment la lutte contre les mutilations sexuelles. Et c'est vraiment elles qui ont porté ça. Donc ça, c'était ce mouvement, il se dénommait, coordination des femmes noires, ou mouvement des femmes noires. Et ensuite, on est passé à une toute autre dimension de la prise de conscience afro-féministe, peut-être davantage liée au black féminisme, états-unien.
Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas tout à fait les mêmes conditions sociales aussi qui sont exprimées par ces mouvements dans les années 70, où effectivement s'articulent les questions de classe sociale, qui sont très importantes aussi pour ces mouvements, ces coordinations des femmes noires. La question du tiers-mondisme, on est dans un mouvement révolutionnaire qui s'inscrit dans quelque chose de plus vaste. Et puis la condition aussi de ces mouvements, ils regroupent donc des femmes qui sont venues des Antilles, des femmes qui sont issues de l'immigration subsaharienne, des Américaines, des Afro-Américaines qui sont là aussi à Paris à ce moment-là. Donc il y a aussi une réflexion sur la spécificité de ces oppressions dans ce contexte politique-là. Et aujourd'hui, il y a donc une réflexion qui est aussi liée au fait que ce sont des femmes qui sont issues de ces... qui sont les filles, les petites filles de ces femmes-là, mais qui sont en France depuis de très nombreuses années, qui revendiquent cette identité française tout en étant, tout en souffrant du racisme, d'un racisme spécifique et de ce qu'elles appellent désormais donc la misogynie noire, donc cette spécificité d'une misogynie liée au racisme. Et donc ces revendications, elles sont renouvelées aussi par un contexte qui lui-même a changé et par le fait les caractéristiques sociales aussi de ces afroféministes aujourd'hui qui sont différentes de celles des années 70.
Alors, de ce qu'on comprend d'ailleurs, le rapprochement entre le féminisme blanc, entre guillemets, et le féminisme non blanc est assez soit minoritaire ou soit tardif. Est-ce que pour vous, parce que c'est d'abord une histoire française là, mais est-ce que pour vous il y a une spécificité française liée à ce qu'on connaît de l'universalisme républicain qui fait que ces rencontres, que ces jonctions ont été difficiles, ou qu'il y a eu des occultations justement de ces identités minoritaires ou différentes?
En tout cas, le contexte intellectuel et politique français est très rétif à entendre des voix minoritaires, avec toute cette idéologie républicaine qui considère que ça met en danger l'unité de la République. C'est aussi un certain rapport à l'histoire, comme s'il y avait une histoire linéaire de la République, de la laïcité. Et il y a une réaction extrêmement violente de rejet par rapport à ces types de mobilisation. Donc nous, on a voulu aussi totalement dédramatisé, c'est-à-dire montrer au contraire quelque chose d'extrêmement foisonnant, extrêmement novateur, mais on a aussi voulu mettre du S un peu partout, c'est-à-dire que c'est pas plus le féminisme noir que le féminisme blanc, et donc on essaye de déconstruire aussi l'idée qu'il y aurait un féminisme blanc, parce que justement en montrant la diversité, la pluralité de ces féminismes, ça joue dans les deux sens, enfin, la déconstruction et le S, il joue pour tout le monde.
D'accord. Alors, vous avez commencé à me répondre, mais est-ce que c'est C'est la raison pour laquelle, je pense aussi aux polémiques assez récurrentes qu'on a sur l'islam, le voile, etc. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, dans l'introduction, vous parlez de polarisation stérilisante au sein du mouvement féministe? Vous dites que vous voulez y échapper, mais en même temps, vous ne les nommez pas trop, ces polarisations. Donc, à quoi ça fait vraiment référence?
Alors c'est plutôt la polarisation du débat, c'est-à-dire que comment on restitue des dynamiques féministes dans un débat social ou dans un débat médiatique ou dans un débat intellectuel, c'est souvent en prenant la partie pour le tout. Donc on a toujours cette appellation « les féministes font ci », « le féminisme c'est ça ». Et on ne spécifie jamais de qui on parle, à quel moment on parle. Oui, il peut très bien y avoir des dialogues et des polémiques, c'est absolument pas ça qu'on a voulu éviter. Au contraire, on a voulu montrer la multiplicité, ouais, de ces polémiques, à la fois internes et externes. Et là, quand on dit qu'on veut échapper à cette polarisation, c'est-à-dire plutôt à la schématisation, médiatique, qui est quand même liée aussi à l'histoire de l'antiféminisme ou des antiféminismes.
Un dernier mot sur cet aspect d'intersectionnalité. Vous l'avez mentionné, il y a aussi la domination de classe, on a beaucoup insisté sur le racisme, mais il y a aussi la question sociale, évidemment, qui se mêle à tout ça. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du lien entre les mouvements féministes et le mouvement ouvrier et l'anticapitalisme? On a l'impression, à lire l'ouvrage, quand on passe les grandes dates, 1848, 1936, le Front populaire, etc., on a l'impression de rendez-vous manqués successifs. Est-ce que vous êtes d'accord pour...
Oui, c'est vrai.
Ce diagnostic.
Ben, tout à fait. Ce sont des rendez-vous manqués et c'est même une des raisons aussi de la dynamique d'autonomie et d'autonomisation des féminismes par rapport à leurs alliés ou par rapport même aux matrices conceptuelles dont elles pouvaient émerger et le fait qu'on les a constamment trahis. C'est même plus seulement des rendez-vous manqués. Ce sont des trahisons. C'est vraiment les faire taire et leur interdire de se réunir. C'est la fermeture des clubs. Et là, on voit vraiment un fossé immense entre finalement cette minorité de femmes et de quelques hommes féministes qui pensent vraiment l'égalité sociale, mais aussi l'égalité des sexes, ou qui pensent l'égalité des sexes comme une priorité, et puis un monde politique, qu'il soit de droite ou de gauche, qui est de toute façon hostile à cette idée d'égalité et qui en fait va œuvrer contre.
Ouais. Peut-être qu'on peut juste ajouter sur l'idée de l'intersectionnalité qu'on a aussi une question qui traverse ces articulations de domination autour des sexualités. Hein. Donc il ne faut pas l'oublier, il y a la question de la race, il y a la question de la classe, du genre, mais aussi des sexualités. Donc on a aussi voulu montrer les formes d'articulation entre ces mobilisations aujourd'hui qu'on appelle depuis les années 2000 LGBT, QIA+, et puis ces mouvements féministes, ces moments de rapprochement, ces moments de division, et c'est aussi quelque chose qui est très riche et qui traverse et dont on peut trouver des généalogies bien, bien plus anciennes.
Alors, dans les aspects peut-être pour le coup les plus inédits, je voulais qu'on s'arrête également sur une mouvance, on va dire, qui est l'écoféminisme, parce que évidemment ça fait référence à la condition climatique qui est la nôtre maintenant, celle de l'anthropocène, comme on dit. Celle de la question d'une planète habitable. Est-ce que vous pouvez expliquer comment le lien est fait dans cette mouvance, même si elle est très plurielle, hétérogène, etc., mais comment le lien est fait entre critique du productivisme et la cause des femmes ?
C'est peut-être la critique déjà de l'exploitation de la nature, comme on exploite le corps des femmes, c'est-à-dire que cette marchandisation des produits, naturels, ce rapport au capitalisme, il y a ce lien qui était fait déjà dans des féminismes marxistes, en fait, de la similarité ou des analogies entre production, reproduction, exploitation de classe, exploitation des femmes. Donc là, c'est on pourrait dire que c'est les mêmes types d'analogies entre la dénonciation d'un rapport à la nature uniquement comme quelque chose qu'on va dominer, maîtriser, exploiter jusqu'à épuisement, et un rapport au corps, notamment des femmes, ou tout simplement aux femmes en général, qui serait uniquement instrumentalisé, exploité, dominé, marchandisé.
Par rapport à ça, j'avais une question qui fait écho au choix que vous devez faire en tant qu'historienne, en tant que scientifique, sur comment on trace les frontières du féminisme. Parce que à propos de l'écoféminisme, vous expliquez bien que, alors, aux marges hein, quand même de cette mouvance, il y a des tendances conservatrices qui sont notamment représentées dans la revue Limite, des tendances conservatrices qui surfent sur l'idée de naturalité pour défendre un certain féminisme qui est souvent considéré comme assez conservateur, puisqu'il rejette des revendications d'ailleurs du mouvement féministe comme la PMA par exemple,
en jugeant, ou même l'avortement.
Ou même l'avortement. Mmh. Finalement, est-ce qu'on peut encore parler de féminisme, même si eux, ils s'en réclament, ou elles s'en réclament, si l'horizon d'égalité disparaît et si on a des identités comme ça essentialisées et naturalisées?
Mais disons que ce qui est intéressant, c'est de prendre au sérieux le fait qu'elles se disent elles-mêmes féministes et que du coup, elles essayent de s'insérer dans ce moment que nous sommes en train de vivre et que l'on a évoqué au début. Mais par contre, ce que l'on voit très bien, c'est que elles ne sont pas du tout insérées dans ces formes de mobilisation, dans cet espace de mobilisation, et que effectivement, elles ont toute une série de discours qui sont très réactionnaires et qui finalement diffusent des idées assez traditionnelles de la répartition des rôles de genre. Donc on les cite là dans le livre, mais on ne les inclut pas forcément dans ces mobilisations féministes. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans des moments de forte mobilisation, on a une très forte circulation du terme féminisme lui aussi. Et donc là, c'est une autre question en tant qu'historienne, c'est-à-dire comment arriver à qualifier, comment se saisir des termes qui sont utilisés par les militantes elles-mêmes. Est-ce qu'il faut les reprendre? Est-ce qu'il faut les avoir un regard critique? Et là, on est effectivement, c'est intéressant que la revue s'appelle Limite, parce qu'on est vraiment à la limite de ce qu'on peut considérer comme féministe ou pas.
Alors j'avais une question toujours sur cette question qui ont trait à la nature, la naturalité. Vous soulignez beaucoup qu'il y a une forme dans les mobilisations actuelles, une façon aussi d'assumer, de parler dans l'espace public du corps des femmes, d'assumer cette question-là. Vous reproduisez par exemple une affiche là d'un collectif où on voit un clitoris représenté 3 fois et à chaque fois il y a ceci n'est pas un alien, ceci n'est pas un bretzel, ceci n'est pas un émoji. Mais alors, c'est assez intéressant parce que vous notez que la focalisation sur les corps et la sexualité pourrait être contradictoire avec un autre mouvement qui est celui justement de la déconstruction des normes de genre, la prise de distance, écrivez-vous, par rapport au sujet femme comme sujet unique du féminisme. Est-ce que vous pouvez un peu préciser en quoi il y a vraiment contradiction, ou est-ce que c'est une contradiction qui n'est que potentielle ?
Peut-être c'est plus une tension qu'une contradiction. On faisait allusion là à l'importance du sujet femme qui se nourrit, donc comme catégorie politique, hein, un sujet politique femme, qui se nourrit beaucoup de l'expérience du corps et de l'expérience de l'oppression du corps et de la négation du plaisir féminin, de la méconnaissance du clitoris qui n'est jamais étudié dans les écoles, enfin, etc. Enfin, toute cette prise de conscience là autour de la sexualité aussi des femmes. Donc à la fois il y a résurgence là vraiment de ce sujet femme, alors qu'il y a quelques années on pensait que le sujet du féminisme serait davantage le genre et donc la déconstruction de cette catégorie femme en montrant la diversité, les oppositions entre femmes racialisées, femmes blanches, les oppositions politiques et puis toute l'importance des mouvements trans et des mouvements queer qui ont amené énormément pour débiologiser justement ce catégorie. Donc il y a bien cette tension et beaucoup pariaient sur le fait que ce sujet politique femme n'aurait plus de pertinence. Alors qu'en fait, le mouvement auquel on assiste aujourd'hui, il est fondamentalement aussi autour de cette catégorie politique.
Je voulais qu'on termine l'entretien sur quand même l'acteur qui joue dans le maintien de ce patriarcat contre lesquels les mouvements féministes se battent, qui sont les hommes et plus particulièrement ceux qui communient dans une forme de domination masculine, ce qu'on appelle parfois le masculinisme, parce que on a parlé de MeToo, effectivement, de révolution féministe, c'est le titre qu'on a choisi un peu étendard pour cette collection, mais on vit aussi dans un monde où on a des chefs d'État comme Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil, Poutine en Russie. aussi, qui sont typiquement dans cet imaginaire hyper viriliste et masculiniste. Un des risques qu'on a et qu'on voit à travers différentes polémiques, différentes violences, c'est l'idée d'un backlash, en fait, d'un retour de manivelle très conservateur contre toutes les revendications auxquelles on assiste. Est-ce que vous, dans l'histoire que vous faites, vous repérez des moments particuliers comme ça de backlash, ou est-ce qu'au fond, il y a une sorte de trame continue de résistance du patriarcat qui s'affirme en tout temps et en tout lieu ?
Il y a des moments de backlash, oui, qui sont quand même liés aussi beaucoup au contexte, parce que notre propos, c'est aussi toujours de recontextualiser. C'est-à-dire que c'est par exemple, là, vous citez Bolsonaro, Trump, voilà, c'est aussi des contextes politiques, de populisme, de montée de l'extrême droite, qui va nourrir ces mouvements qui sont toujours effectivement un peu latents. Et ce qu'on constate, c'est que le genre, les féminismes deviennent des outils pour ces mouvements politiques. C'est-à-dire que il y a une véritable instrumentalisation, diabolisation de l'émancipation des femmes ou des sexualités pour mobiliser les populations vers un ordre moral, un ordre social conservateur. Mmh. Donc c'est quand même des moments particuliers. Peut-être que c'est aussi l'effervescence d'aujourd'hui de cette révolution féministe. Elle est aussi une réaction à cette montée des populismes d'extrême droite en masculinisme. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Mmh. Ce n'est pas forcément eux qui réagissent à... C'est ce qu'ils veulent aussi nous faire croire quand ils diabolisent tout serait de notre faute, voilà, on serait devenus les maîtresses du monde. Mmh.
Dans un renversement,
voilà,
comme ça.
En accusant les femmes de prendre le pouvoir. Ça a toujours été une rhétorique antiféministe. Donc c'est aussi que c'est face à cette violence du masculinisme qui est quand même liée à des contextes politiques et à leur triomphe politique que se mobilise aujourd'hui cette génération si dynamique.
Effectivement, il y a des formes de récurrence assez frappantes de cet antiféministe que l'on montre déjà par exemple dans la rhétorique anti-droit de vote des femmes par exemple. On a tout un florilège que l'on cite dans l'ouvrage. Dans les années 70, la manière de diaboliser le mouvement de libération des femmes par exemple, et des éléments qu'on retrouve aussi aujourd'hui, cette peur de déstabiliser l'ordre social, de jeter le trouble aussi sur les identités féminines et masculines. Donc tout ça, c'est des récurrences, mais en même temps, effectivement, il y a des... Et les mouvements féministes ont toujours rencontré des antiféministes extrêmement forts, mais effectivement, il y a aussi des moments particuliers où ces antiféminismes s'expriment plus particulièrement. Oui.
Alors, dernière question, peut-être plus avec un peu plus positif, je ne sais pas, vous allez me dire. Mais est-ce que, alors qu'il y a cette toile de fond quand même de la résistance du pouvoir masculin, est-ce que, à votre sens, si on revient au moment actuel, au moment MeToo, est-ce que vous repérez ou est-ce que vous espérez que dans ce moment-là, ça déplace peut-être plus de choses qu'auparavant, y compris dans les années 70, que ça déplace plus de choses chez les hommes actuels, enfin comme moi, comme d'autres, ou ceux qui grandissent en ce moment en tant qu'enfants, garçons. Est-ce que vous dites, là, il y a peut-être quelque chose qui peut basculer peut-être plus qu'avant, plus que dans les autres périodes historiques ?
En tout cas, la jeunesse du mouvement qu'on voit notamment dans les manifestations et une certaine mixité, je crois qu'il y avait presque un quart d'hommes dans les manifestations, qui avait l'air de reprendre des slogans sur nous toutes sans problème. Donc là, peut-être que l'importance du queer aussi, qui permet un peu plus de valoriser le fait qu'on peut prendre une posture en faveur des femmes sans forcément être transgressé, sans forcément transgresser absolument un mouvement, en étant plutôt que d'être toujours dans cette idée où on est allié ou est notre place. Bon, non, on est en place aussi en disant nous les femmes, mais on est des hommes et on dit nous les femmes, on en a marre, on en a marre de cette domination.
Alors c'est la question que les historiennes détestent, c'est-à-dire dites-nous l'avenir. Mais effectivement,
c'est vrai que je faisais mention de l'espoir en plus
non,
de la condition.
Voilà. Mais après c'est vrai que maintenant on voit aussi les multiples canaux de diffusion de ces féminismes, donc à la fois dans la culture, à la fois dans les médias, à la fois une transmission familiale qui joue effectivement un rôle très important, une transmission aussi par l'école, par l'université. Donc ces multiples voies peut-être effectivement renforce cette diffusion du féminisme et des féminismes auprès des hommes qui ont, d'ailleurs on le montre, hein, toujours été présents dans ces mobilisations.
Ben merci à toutes les deux pour cet échange, et je rappelle évidemment donc votre ouvrage « Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes » de 1789 à nos jours. Merci de nous avoir suivis, et puis rendez-vous sur Mediapart pour plein d'autres vidéos. Merci beaucoup.